Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM. Bonjour Michele Saporiti.
Bonjour Nathalie.
Très cher collègue, comment vas-tu? Ça faisait longtemps.
Très bien, bon, très bien, merci. Bon. Et toi, Nathalie?
Ravi. Alors vous entendez Nathalie Perrin, Michele Saporiti. Aujourd'hui, Stéphanie Ronchevski-Degore n'est pas présente avec nous, mais exactement. On la salue parce qu'elle écoute et voilà, elle a plein de choses à faire. Et on est trois dans cette émission, trois présentateurs. Moi-même, Nathalie Perrin, Michele Saporiti qui est ici et Stéphanie Ronchevski-Degore pour le Collège international de philosophie, un partenariat qui dure maintenant depuis combien de temps? J'ai déjà perdu au moins 5 ans, mais quelle merveille. Et moi, c'est la première fois que je suis dans ces magnifiques studios, voilà, d'Aligre FM, et on est absolument ravis, d'autant plus qu'on reçoit quelqu'un aujourd'hui pour une thématique sur la laïcité, voilà, dont on rappelle aujourd'hui le titre de l'émission autour de cette laïcité qui s'inscrit aussi dans l'idée de l'Europe et de la laïcité. Hein, c'était ça qu'on avait gardé comme titre, Europe exactement. Et laïcité, puisque ça va s'inscrire aussi dans une semaine propre à Aligre FM, n'est-ce pas, Michele?
Exactement, chère Nathalie. Oui, la semaine qui est dédiée à l'Europe en général. Et comme tu disais, bon, c'est pas la première fois que Philosophie au présent s'interroge, disons comme ça, sur la laïcité.
Hein.
Tu te rappelles très bien l'émission qu'on a fait avec Martin Cohen et Albert Achille.
Et Albert Achille, tout à fait.
Fin janvier, c'était passionnant, un dialogue vraiment passionnant.
Et on s'était dit qu'on referait.
Et
voilà, on a tenu promesse, comme d'habitude, avec un invité que tu connais.
Que je connais, que j'apprécie beaucoup.
Voilà, et dont j'ai eu l'occasion d'ailleurs de découvrir un peu l'œuvre, qui est Vincent Génin. Bonjour.
Bonjour.
Vincent, merci d'être venu.
Merci à vous.
Mais bonjour Vincent Génin. Alors, et bienvenue à Philosophie au présent, voix du Collège international de philosophie. Alors, je vais brièvement vous introduire. Vous êtes docteur en histoire, ancien élève de l'école pratique des études. Vous êtes titulaire d'une HTR, habitation à diriger les recherches de l'école pratique des études. Vous êtes spécialiste des sciences sociales, de religion et des laïcités. Vous avez une bibliographie tout à fait remarquable aussi. Vincent Génin est très jeune. Et vous venez de publier aux Presses universitaires de France un livre tout à fait passionnant. Je commence à le décrire comme ça, qui a reçu déjà nombreux commentaires dans les journaux, qui s'appelle « Histoire intellectuelle de la laïcité de 1905 à nos jours ». Et alors, pour introduire ce discours sur la question de la laïcité, Nathalie, on ouvre les danses. Qu'est-ce que tu en penses?
J'ouvre la danse avec une question très large, mais parce que le but de Philosophie au présent, voix du Collège international de philosophie, c'est aussi de pousser nos auditeurs à aller lire les livres des auteurs qui viennent nous voir. Et pour cela, il faut un peu leur expliciter la démarche. Alors, une première question toute simple. Comment est-ce que vous inscrivez, Vincent Génin, ce livre dans votre propre œuvre? Ce qui vous donne l'occasion aussi de redire... quel est le sens de votre recherche, les ouvrages que vous avez déjà publiés. Et je poursuis tout de suite avec embrayée sur cette première question, le pourquoi de cet ouvrage, comment l'avez-vous pensé, et notamment peut-être aussi par rapport à une actualité politique de la laïcité. Vincent Génin, alors donc cette première question, comment inscrivez-vous votre livre dans votre œuvre, et comment en avez-vous eu l'idée?
Oui, en fait, c'est un parcours qui, si j'ose dire, est assez empirique à première vue. Vous savez qu'il y a à la fois un intérêt et à mes yeux aussi une limite parfois au métier de chercheur. C'est ce que je qualifierais la monomaniaquerie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, notamment quand on travaille sur un auteur, que l'on soit historien, philosophe, peut-être encore davantage d'ailleurs, ou en littérature, il y a parfois des carrières qui se font sur un grand philosophe, une grande écrivaine, etc. En histoire, c'est un peu différent, même si, bien entendu, il y a des espèces de parcours très linéaires. En un sens, moi, disons qu'il apparaît à première vue comme assez buissonnier, mais à deuxième vue, je pense qu'il a une unité, c'est tout simplement l'enchaînement de mes intérêts, de rencontres aussi. Je crois beaucoup au caractère affectif du savoir. C'est-à-dire que je ne suis pas un penseur sur un anachoret stylite qui regarde d'en haut. Il y a vraiment aussi des facteurs beaucoup plus personnels qui ont joué. Et il y a, mine de rien, des lames de fond intellectuelle, mais que je découvre parfois moi-même. Je vais être très, très bref là-dessus pour répondre à votre première question. Au départ, et à l'arrivée aussi, d'une certaine manière, je suis historien. Donc j'ai un métier d'historien. J'ai très tôt travaillé, depuis mes études en Belgique, à Liège, sur les sources d'archives. C'était une formation très classique, mais très solide aussi, que certaines ou certains pourraient même qualifier d'un peu positiviste. Mais a fortiori, je n'ai rien contre cette première approche, du moment qu'on puisse, j'allais même pas dire en sortir, mais s'en dégager de manière critique. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été un point de départ disciplinaire. Et en termes d'enjeux, je me suis intéressé pendant mes études, pendant ma thèse, à l'histoire des relations internationales contemporaines. Et en un sens, ce caractère et cette dimension internationale, je ne l'ai pas quitté, y compris pour la laïcité, qui est un grand problème, souvent pris sous un angle très national ou national centré. Et puis, au fil du temps, dans cette histoire des relations internationales, je m'intéressais aux juristes, de droit international public au 19e et au 20e siècle. Et la Belgique avait été un pays assez séminal, assez fondateur de cette discipline, fin du 19e, puisque, comme on le sait, les petits pays n'ont pas d'ambition de puissance à l'égard des autres. Ils savent très bien que, voilà, comme disait un grand ministre belge, Paul-Henri Spaak, très honnêtement, l'URSS n'a pas à craindre une invasion de son territoire par le Luxembourg, donc elle peut écouter aussi sa parole, hein, ce qui est intéressant. et en un sens, j'étais parti là-dessus, j'en ai fait 2 livres il y a quelques années, et m'avait touché, si j'ose dire, dans l'étude de ces juristes qui s'occupaient du droit international, de la paix par le droit, le facteur confessionnel. C'est-à-dire que certains d'entre eux, à l'époque ce n'étaient que des hommes, avant 40, avaient une sensibilité catholique de gauche ou protestants libéraux, mais sans qu'ils ne l'affichent explicitement dans leurs travaux. Mais ça transpirait tout de même un peu. Alors là, le vraisemblable dans la recherche apparaît. Je n'avais pas une formation en histoire ou en sociologie ou en sciences sociales des religions. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai commencé, donc après ma thèse, à lire d'autres disciplines de manière plus assidue, la sociologie, la philosophie politique ou bien entendu même la théologie, tout en gardant mon regard d'historien. Les études littéraires comptent beaucoup pour moi et de plus en plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur un auteur qui m'a beaucoup aidé pour penser ce facteur confessionnel dans l'action temporelle des phénomènes sociaux. C'est Max Weber, bien sûr, auquel j'ai consacré un livre il y a 2 ans. Comment l'éthique protestante de Weber, paru en 1905, avait été reçue, plus ou moins clairement, plus ou moins problématiquement, par les historiens français. C'est une focale comme une autre, mais qui m'a permis de poser la grande question, à mes yeux, d'ordre disciplinaire, national, éditorial, idéologique, politique d'un auteur. Voilà.
Je rappelle peut-être le livre « L'éthique protestante de Max Weber et les historiens français 1905-1979 voilà, », qui a paru en 2022, Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences religieuses.
Hein. Absolument. Et donc ça, c'est un travail que j'ai soutenu, un diplôme postdoctoral que j'ai soutenu à l'École pratique des hautes études, où j'ai commencé à suivre des séminaires après ma thèse, dès que j'en ai eu l'occasion, la possibilité, je dirais, matérielle, pour être très clair, et où j'ai rencontré des personnes qui m'ont accueilli et qui m'ont accompagné dans ces recherches. Je pense ici à Valentine Zuber, à Philippe Portier, à Denis Pelletier, à Hubert Boss et d'autres, mais qui sont des personnes qui comptent pour moi et qui m'ont vraiment fait confiance aussi, ce qui est quand même très important. Et à un moment donné, ce livre sur Weber est aussi une espèce d'étape méthodologique, comme une espèce de seuil de salubrité intellectuelle que j'ai voulu pratiquer pour passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la question de la laïcité, qui bien entendu est intimement liée à la sociologie des religions, quand on regarde un petit peu celles et ceux qui la travaillent, hein, les phénomènes de sécularisation, de laïcisation sont des sujets centraux pour des personnalités comme Weber, Émile Durkheim, Karl Mannheim aussi moins connu mais qui m'intéresse beaucoup. En cours, j'ai toujours à cœur de passer quelques heures sur Karl Mannheim et son analyse des millénaristes du XVIe siècle. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup.
Mmh.
Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à approcher cette question de la laïcité. Bon, il y a une idée qui est venue à un moment donné, c'est-à-dire le fait de travailler cet objet non pas dans la mesure d'une histoire de la ou des laïcités, hein, chose qui existe et qui a été déjà bien écrite, qui peut encore être écrite bien sûr, mais le terreau existe, mais plutôt d'approcher l'objet d'un point de vue historiographique et épistémologique, pour employer un mot peut-être un petit peu pédant, mais qui ici peut être clairement dit, c'est-à-dire vraiment de voir comment est-ce que cette notion s'est inscrite dans l'ordre du savoir depuis un bon siècle, et en un sens, de sortir de son approche d'un point de vue polémique, politique, et de s'inscrire aussi dans un temps un petit peu plus long. C'est un pari peut-être un petit peu risqué, parce que c'est, a priori, c'est pas très vendeur, mais j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'intelligence plutôt qu'à la rapidité.
Voilà. C'est une bonne... Voilà, alors, donc, là, on rappelle aussi, parce qu'on l'a, je sais pas, on l'a peut-être pas fait, mais c'est intéressant pour nos auditeurs. Vous aviez écrit avec Marcel de Tienne, voilà, Histoire des religions.
Étape très importante avec,
voilà,
pour moi.
Voilà, avec Marcel de Tienne, donc, à Genève, donc, la collection Histoire des religions en 2021. Vous aviez également écrit Le laboratoire belge du droit international, une communauté épistémique et internationale de juristes, 1869-1914. Voilà, toujours Bruxelles, Académie royale de Belgique, collection mémoire. Et enfin, Incarner le droit international du mythe juridique au déclassement international de la Belgique, 1914-1940. Voilà, Bruxelles, Peter Lang, enjeux internationaux pour la collection. Donc vous avez vraiment... Alors, je reviens à ma question du pourquoi de cet ouvrage et est-ce que c'est en lien aussi avec une actualité politique et comment vous pensez cette laïcité. Alors, comme vous l'avez très justement dit, non pas seulement par rapport à une histoire nationale, hein, ce qui finalement a été fait, mais l'inscrivant aussi dans une histoire beaucoup plus large, celle de l'Europe.
Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà eu des travaux depuis une trentaine d'années sur l'inscription des phénomènes de relations entre les églises et les États d'un point de vue européen. Je pense notamment à un livre collectif dirigé en 1994 par Jean Bobéraud, qui est un nom
après
important
du domaine,
qui
s'appelle L'Europe des Douze. L'Europe des Douze et la question des religions dans l'Europe des Douze et de la régulation des cultes. Disons que le pourquoi de ce livre, en fait ici je me cantonne dans ce livre-là, il est vrai, un cadre assez français, mais pour l'ouvrir, comme on le ferait d'un fruit qu'on épépine un peu, afin d'évaluer aussi, dans l'ordre du savoir, par exemple les transferts culturels, comme on le dit, c'est-à-dire les influences étrangères de certaines notions qui se sont hantées sur des notions françaises autour de cette laïcité. Et ça a été ce moyen-là de... aussi d'un point de vue comparatif. Et là, vous aviez mentionné, et je vous en remercie, un livre qui a beaucoup compté pour moi et qui a compté pour la suite, c'est ce livre sur Marcel de Tienne, paru en 2021, qui a bien connu, je crois, des membres du Collège de philosophie, d'ailleurs, très bien même. Et de Tienne, qui est mort il y a 5 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer avant sa mort. J'ai appris d'ailleurs, après avoir commencé ma recherche sur lui, qu'il était né dans la même ville que moi, et pour rester dans le même quartier, de l'autre côté de la Meuse. Et de Tienne, et non pas d'Étienne, était un personnage qui, au départ, je serai très bref là-dessus, mais c'est assez important, je crois, est un philologue. Donc il a formé dans les années 50 la philologie classique, la plus rigoureuse et la plus, je dirais, obsessionnelle qu'on puisse imaginer. Hein. C'est un moment où les adolescents des collèges de jésuites avaient 9 heures de grec par semaine. Bon. Mais lui, il a un parcours vraiment qui est allé de la philologie à l'anthropologie, mais ça a mis 40 ans, hein, autour de la Grèce ancienne. Donc je conseille aux auditeurs et auditrices, lisez Dionysos à ciel ouvert de Tienne, c'est un livre extraordinaire. Et à un moment donné, Dans sa jeunesse, quand il était avec Jean-Pierre Vernant, par exemple, et d'autres, hein, beaucoup d'États-Unis, beaucoup d'Italiens, Beppe Nenci, etc., des grands chercheurs de l'époque, ont travaillé sur une approche comparée de ces dieux. Et ce comparatisme m'a beaucoup nourri aussi.
On revient dans deux secondes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors Vincent Genin, vous parliez à l'instant de Marcel de Tienne, bon, qui est une grande influence pour votre recherche et ce livre dont vous venez nous parler aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de reprendre avec nous toutes ces thématiques sur la laïcité. Alors vous parliez de Tienne et de cette grande relation. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement au sens presque conceptuel pour votre livre Histoire intellectuelle de la laïcité 1905 à nos jours, en quoi la pensée de Tienne, parce que vous avez une formation d'historien et en même temps, j'emploierai un terme absolument pas péjoratif, mais vous vous éclatez vers d'autres champs de pensée, hein, au sens où l'éclatement, c'est presque un concept d'ailleurs de la French philosophy, comme on dit, ou la French thought, hein, s'éclater, non pas dans une espèce de... pas dans une pluridisciplinarité, mais dans une transversalité, c'est ce que j'ai retenu de ce que vous nous dites de votre travail de chercheur.
Et à ce propos, Nathalie, on peut lire seulement la première ligne de l'ouverture de l'ouvrage de Vincent Genin, qui peut-être pourrait nous aider à comprendre cette question de la transversalité disciplinaire. Vous écrivez, Vincent Genin, « Étudier un objet, c'est cerner sa langue. La langue qui l'assigne et le nomme. » Quelle est votre langue en ce sens, Vincent Genin ?
La mienne ? Ah ben, c'est la... la langue du paradis, voyons. Non. Ici, disons que ce livre sur la laïcité dont vous venez de citer la première ligne, c'est vraiment la première grande interrogation qui est au fond une interrogation qu'on se posait de manière beaucoup plus banale dans les années 60 ou 70, mine de rien, par rapport au pouvoir de nommer et d'être nommé, qui a eu ses limites aussi, mais qui je trouve est toujours extrêmement féconde. Ici, c'est de voir comment est-ce que, l'air de rien, on parle en permanence de cette laïcité qui est devenue un marronnier de la société française, marronnier de la presse, mais marronnier aussi, on y reviendra sans doute, de certaines ou de certains spécialistes, je dirais à la mode de Bretagne, c'est-à-dire des personnes qui, il y a une bonne trentaine d'années, et qui avaient fait des travaux intéressants. Je pense à des personnes comme Alain Finkielkraut, je pense à des personnes comme Elisabeth de Fontenay, comme Régis Debray, etc., qui ont commencé à cette époque à s'interroger sur la question, mais à partir, j'ai envie de dire, d'un matériau extrêmement faible, si j'ose dire, à savoir la seule actualité. Alors, c'est un matériau comme un autre, mais qui, si on le prend seul et isolé d'autres matériaux documentaires ou d'ordre heuristique, est un petit peu faible. Et l'air de rien, depuis 35 ans, à mes yeux, ces personnalités, contre lesquelles je n'ai strictement rien d'ailleurs, il y a des livres de ces personnes qui, je crois, sont très importants dans leur vie. Sur la Révolution, j'aurais parfois des réserves. Mais il y a une langue autour de ces phénomènes de laïcité qui est aussi née avec ces personnes, et d'autres d'ailleurs, je ne veux pas faire de la réduction. Et j'ai aussi voulu analyser ça, d'autres livres suivront là-dessus, mais je pense aussi que notre société est tout à fait prise par des grandes mythologies autour
sur la cité.
De cette laïcité.
Mais donc, votre langue, Vincent Genin, est la langue de l'historien, la langue de l'histoire, la langue de la sociologie, de la philosophie, de la science politique. C'est une langue plurielle, on peut dire comme ça, dans votre travail sous la
C'est une langue cité. Plurielle. Quand j'ai terminé ce travail, j'ai demandé à... C'est assez amusant, quand je finissais de l'écrire, j'ai demandé à celui qui a bien voulu en diriger le diplôme final, Philippe Portier, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui a la chaire d'histoire et de sociologie des laïcités, et je lui avais dit, mais finalement, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que, mine de rien, on devient un petit peu aveugle devant sa production, a fortiori lorsque on s'éclate, comme vous le dites très justement, et je dirais que c'est un éclatement recentré. Mais, et je lui demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il m'a dit, en ayant vraiment réfléchi à la question, écoutez, je pense que vous faites de la sociologie historique de la production d'un savoir. Alors, c'est un peu long,
ouais,
mais c'est juste. Voilà.
Expliquez-nous.
Bah, la sociologie historique, c'est une méthode, c'est une approche qui a été élaborée par Max Weber, au fond. Hein. Il ne fut pas le seul, mais il a quand même été fondateur là-dedans, si j'ose dire. La sociologie historique, c'est vraiment de donner une perspective, bien entendu une dimension historique, à une approche sociologique, et tout ce que l'on peut voir dans le présent ne se limite pas, si l'on peut dire, à une observation empirique cantonnée à l'aujourd'hui, qui était très cher à Weber. Le aujourd'hui est présent très très souvent dans ses œuvres, mais vraiment de chercher les archéologies intellectuelles, les filons, et c'est une archéologie que j'ai... Michel Foucault compte aussi dans mon travail, hein, quand même.
Oui,
quand,
j'allais vous le dire tout à l'heure, oui.
Voilà,
tout
bien sûr, quand il parle d'un savoir assujetti dans l'archéologie du savoir en 69,
ouais,
ou dans ses cours du Collège de France de 76, de 70, pardon, Il faut sauver la société,
oui,
qui est un très beau cours, où il parle aussi du sujet, de l'assujettissement de l'objet, etc., etc. La laïcité est un objet qui, pour moi, dans le champ politique et en large part, assujetti à ces mythologies. Il est soumis à une langue, et là j'essaie de répondre à votre question de manière peut-être latérale, mais il y a cet assujettissement qui, moi, comment dire, qui ne me convient pas, qui m'étouffe un peu. Je ne suis pas le seul, bien entendu, et en un sens, j'ai voulu, à ma manière, à procéder à un désassujettissement. Il y aurait d'autres voies d'accès pour le faire. Moi, c'est l'ordre du savoir. Et en un sens, si l'on peut dire, ma langue est peut-être celle du désassujettissement. Voilà.
Bon, merci pour cette réponse très articulée, on peut dire. Hein.
Ouais. Tout à fait. Et on peut peut-être en profiter avant de passer un extrait de Bach, de simplement dire, lire la table des matières à nos auteurs de votre ouvrage. Donc, chapitre 1, archéologie des traditions politiques et philosophiques. Chapitre 2, une cristallisation sous les auspices du catholicisme de gauche. Chapitre 3, éclipse et rebond. Chapitre 4, les années d'incubation, 1985-1988. Chapitre 5, les années électriques. Chapitre 6, internationalisation et réflexivité. Chapitre 7, fausse unanimité et inflexion sécuritaire, 2005-2016. Chapitre 8, le nouvel avatar du nationalisme depuis 2016. Considération finale, la République du même, j'aime beaucoup ces considérations finales, et comme vous évoquiez aussi votre dette entre guillemets à Michel Foucault, on rappelle que la notion d'archéologie, c'est faire la science finalement des civilisations disparues à partir de leurs vestiges, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est les vestiges de la laïcité, est-ce que c'est finalement les préjugés sur la laïcité que vous essayez de démonter, est-ce que vous essayez de mettre en avant tout ce qui finalement se dit sur la laïcité pour mieux faire saisir ce qui ne se dit pas aujourd'hui sur elle.
J'ajoute une petite question à Nathalie, qui nous fascine beaucoup en tant que philosophe, en disant comme ça. C'est une archéologie, pour citer des grands penseurs, sans arché, dans le sens, est-ce qu'il y a un arché, une arché, peut-être rendue comme ça, dans la laïcité?
Question redoutable, l'une comme l'autre, que ce soit celle de Nathalie ou de Michele, merci à tous les deux. Au fond, c'est une archéologie sans arché, bien sûr, dans le sens du pouvoir.
Oui.
Et aussi de commencement, peut-être.
De commencement. Hein. Voilà. J'ai un rapport assez négatif, non seulement au pouvoir, mais aussi au commencement.
Oui.
Donc, par ailleurs, je crois que de dire un commencement, c'est aussi exercer un pouvoir sur le temps.
C'est très clair.
Donc, mais ça, c'est très personnel aussi. Par ailleurs, par rapport à la première question que vous avez posée, chère Nathalie, il y a cette affaire de vestiges et de comprendre ce vocabulaire d'aujourd'hui ou de hier, on va dire, mais qui est resté là, autour de la laïcité ou des laïcités. Par exemple, je prends un seul exemple. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait un personnage qui a beaucoup écrit sur la laïcité. C'était un homme qui était le chanoine Louis Capéran. Voilà. C'était un chanoine qui écrivait dans les années 1920-1930. des livres sur, d'un point de vue très catholique, ultramontain, clérical à certains égards. Je le caricature un peu parce qu'il est, il est très intéressant, hein, il n'est pas réductible aussi facilement. Et ce chanoine, qui est mort dans les années 60, a écrit des livres qu'utilisent beaucoup les historiens pour traiter l'histoire de la laïcité. Il a écrit 3 gros volumes dans les années 50, et dans les années 30, il a écrit un livre, en 35, L'invasion laïque, où en gros, de manière assez documentée, assez bien écrite d'ailleurs, il estime que, depuis le début du XXe siècle, alors pas que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, et non pas de l'église et de l'État, je corrige, environ 300 copies par an d'étudiants, et il y a 290 fois de l'église, alors que je l'ai dit 15 fois. Bon. Donc c'est très intéressant, c'est les impensés. Ça.
Oui, oui,
il y a une église, et c'est celle qui est apostolique et romaine, bon, et catholique. Il y a, j'ai envie de dire, pour Capéran, cette loi de 1905 qui pose problème, mais le pire pour lui, c'est les lois de 1901 et de 1904 contre les congrégations enseignantes, qui ont été finalement interdites en France. Et pour lui, ça a été le début de ce qu'il appelle une métaphysique d'État en France. Et cette métaphysique, donc je le dis comme il l'écrit, et cette métaphysique d'État, expression que reprend Charles Péguy à la même époque, d'ailleurs, c'est le début de la fin pour Capéran, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui prétendent laïciser la société lui injectent une sacralité nouvelle qui est la République. Bon, alors c'est très intéressant parce que sur ce constat-là, je trouve que Capéran n'est pas à rejeter, sur ce constat c'est précis.
Point, ouais.
Maintenant, le vocabulaire catholique de Capéran et d'un théologien catholique tout à fait honorable de son époque, il était à Toulouse mais formé à Paris, dans l'institut catholique très anti-moderniste de l'époque, Capéran a un vocabulaire qu'on retrouve aujourd'hui chez les laïcs les plus intransigeants. C'est pourquoi il y a aujourd'hui une cléricature laïque, entre guillemets dure, qui ne jure que par la République. Alors, la République est une chose, mais la laïcité est une autre chose. Seulement, eux, je pense à des... Je ne veux pas citer de noms, mais des personnes qui sont très militantes en ce sens... parmi les plus médiatiques, on a Caroline Fourest. Récemment, il y a Madame Chalmani, Amnous Chalmani, etc. Et bien d'autres. Le Conseil des sages de la laïcité, qui est lié au gouvernement quand même depuis quelques années, ont une vision, je dirais, sacralisante de cette notion, y compris par un vocabulaire de l'ordre du sanctuaire. L'école publique est un sanctuaire.
Vous parlez exactement de sanctuarisation, de l'école, dans votre livre.
Bien sûr.
Vous utilisez cette expression-là.
C'est un grand problème. Le mot sanctuaire, ce n'est pas moi qui ai commencé à l'employer. Mais la sanctuarisation comme phénomène souligné, oui, parce qu'il y a cette idée que l'école serait un lieu, l'école publique en question, puisque quand... ils parlent de l'école, ils font comme s'il n'y avait pas d'école privée, alors que, bon, elle est bel et bien là aussi, qu'elle soit sous contrat ou hors contrat, et qu'au sein même de l'école publique, il y a une pluralité sociologique très grande aussi. Ce n'est pas un bloc. Le fait de maintenir cette école publique dans une vision de sanctuaire, moi, c'est peut-être parce que j'ai grandi en Belgique et que je ne suis pas né avec cette espèce d'exaltation de l'école qui sauve un petit peu comme Dionysos était sauvé par Thétis de la noyade, il faut le sauver. Ça m'a beaucoup interpellé et intéressé, cette affaire de... Paul Ricoeur disait qu'il fallait, là-dessus je suis tout à fait d'accord avec lui, ce qu'il appelait une laïcité de confrontation au sein du champ scolaire. Disait-il, on ne peut pas maintenir les élèves dans une condition sociale à l'école où ils évolueraient comme si la société n'existait pas. Et puis à 18 ans, pouf, ils se retrouvent dans la rue et ils trouvent, bien entendu, la société. Mais tout ça est très... En fait, en un sens, parmi les partisans très sacralisateurs du principe qu'ils transforment en valeur, de laïcité, je trouve qu'il y a une forme d'idéologie et même d'utopie assez déconnectée de la réalité sociale.
Tout à fait.
C'est-à-dire, que pense-t-on ? Ces jeunes gens, quand ils rentrent chez eux, ils ont une société déjà. la défense de l'uniforme participe pour moi de la même utopie. Mmh. Qu'est-ce qu'on croit ? Que le fait de mettre un uniforme abolit les classes sociales ? Mmh. Non, il suffit de dire le lieu où on part en vacances et la classe sociale, elle revient. Donc, je trouve qu'il y a là une espèce de, comment dire, d'égalitarisme de façade dont les effets pervers, pour le coup, peuvent être inquiétants et mener, c'est l'objet de mes considérations finales, à une forme de nationalisme.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, nous sommes de retour sur Allegre FM dans Philosophie au présent, voix du Collège international de philosophie, avec un invité, Vincent Genin, qui nous fait le plaisir de venir parler d'une histoire intellectuelle de la laïcité qu'il a écrit et fait paraître. Vincent, vous évoquiez à l'instant Louis Capéran, dont vous nous avez fort bien parlé. Dans ce chapitre-là, je rappelle pour les auditeurs, archéologie des traditions politiques et philosophiques, vous avez précisément écrit la conception philosophique de Louis Capéran. On essaiera au fur et à mesure de redonner comme ça, quand on a l'occasion, les petits titres des sous-chapitres, des chapitres.
Ah
voilà.
Oui, ah ouais,
ça donne envie aux auditeurs de lire. Oui. Voilà, Michele, alors, tu voulais réagir à cette musique que Vincent Genin
a choisie. Vincent Genin qui doit réagir. Alors, nous avons écouté, chères auditrices et chers auditeurs, une musique, d'ailleurs, magnifique, oui, époustouflante. C'était le tout début du concerto, au concerto, si on veut dire en italien, pour violon et hautbois, BWV 1062, Johann Sebastian Bach. Mm. Et Vincent Genin, pourquoi avez-vous choisi cette musique ?
Parce que. parce que, ben, moi je l'ai. Bon, comme un certain nombre de gens qui sont tout de même très nombreux, je crois,
oui,
j'écoute Bach tous les jours. Donc, à une dose de 2 à 3 heures. Et
là là.
Donc, entre le 1041 et le 1060 que nous venons d'entendre, il y a une espèce de... Voilà, c'est le flux, c'est un équilibre, c'est un recentrement aussi. Bon, ça dépend des jours. Voilà, là, nous sommes dans quelque chose qui est ce que nous venons d'entendre, hein, le concerto 1060 de Bach, qui est d'ailleurs déjà italien, au fond.
Ah oui, le concerto conforme, et oui.
C'est un vénitien qu'on entend là, c'est pas un allemand, tout à fait. Bon.
C'est un allemand qui a bien étudié la musique italienne.
Voilà, il a bien étudié la musique italienne. Ouais. Et disons qu'il y a là quelque chose qui tournoie autour... Mm-hmm. qu'on retrouvera bien plus tard chez Haydn aussi. Hein. Le fait de tourner autour, quand on écoute, bon, par exemple, Richter qui joue Haydn au piano, on sent quelque chose qui tourne autour, comme d'un oiseau autour d'une proie, comme ça, ou d'un petit voyage, comme ça, et on a l'impression d'avoir, d'avoir fait un tour dans le quartier, ou bien plus loin. Donc Bach, il y a vraiment cette, ce sentiment-là et ce recentrement, voilà, qui est vraiment de l'ordre... de l'équilibre nerveux aussi, très important, vous savez. On retrouve ça, je retrouve ça chez lui, bien sûr. Comme on disait, bon, Bach, j'avais rencontré un musicien qui avait remporté le concours Reine Elisabeth en Belgique, qui était assez très brillant, mais un peu mégalomane, comme ça. Et il avait dit, de toute manière, pour moi, il n'y a que Bach et Dieu, puis la vie des autres. Voilà, bon, c'est vrai. Mais disons que là, en l'occurrence, il y a vraiment cet aspect-là que je retrouve chez Vivaldi aussi. Notamment, je conseille aux auditrices et aux auditeurs d'écouter l'Argrippo. De Vivaldi, 1717, redécouvert il y a peu d'années, hein, il y a 15 ans, interprété à Prague, une histoire d'un roi mongol dont la fille s'est mariée avec un homme qui n'est pas le vrai. Elle lui écrit une longue lettre, et cette lettre, quand on l'écoute, chantée par une cantatrice comme Cecilia Bartoli, ou d'autres, par exemple, là on a l'impression de quelque chose de très linéaire, de droit et de totalement non mélancolique.
Ah non, pas du tout. C'est vrai, il comme faut Bach. Découvrir Vivaldi comme auteur d'opéra, on peut dire comme ça.
Bien sûr.
Premièrement, et je dis aussi deuxièmement, pas seulement de la musique religieuse.
Bon alors, on sait qu'il faut qu'on réinvite Vincent Jeunin pour la musique, mais on rappelle qu'il est ici pour une histoire intellectuelle de la laïcité qu'il a écrite de 1905 à nos jours. Et Michele,
j'ai beaucoup de questions, mais
d'ailleurs, l'absence de nostalgie, de mélancolie est dans mon livre, tout comme... de manière beaucoup plus fondamentale chez Bach ou Vivaldi.
Ah bon, j'ai un sort de fil rouge, ça c'est vrai. Mais alors, revenons sur l'histoire intellectuelle, parce que je trouve qu'il y a un lien central dans votre... Pardon, il y a un lieu central dans votre histoire intellectuelle de la laïcité, j'ose dire. Il y a aussi une figure majeure parmi les autres. Le lieu central peut-être d'élaboration intellectuelle est justement... l'école pratique des études et tout le disons tout ce qu'elle représente et la figure majeure est mais vous me parlez énormément c'est Jean Bobéro. Alors pouvez-vous nous aider à comprendre disons comme ça les lieux le lieu peut-être les personnages de votre histoire intellectuelle de la cité parce que une chose que je voudrais aussi souligner pour nos auditrices et nos auditeurs je voudrais souligner et c'est pas une captatio benevolente envers notre invité qui est si amable mais c'est aussi l'élément stylistique de ce livre parce que c'est un livre d'une fluidité d'écriture je trouve qui accompagne doucement le lecteur dans les débats, dans les figures, dans les querelles intellectuelles. Donc ça pourrait être une chose énormément lourde, pas du tout. Ici, c'est vraiment une chronique qui est passionnante, vraiment passionnante. Alors je reviens sur la question. Aidez-nous, s'il vous plaît, Vincent Jeunin, à comprendre les lieux, le personnage de votre histoire intellectuelle de la cité.
Alors, bon, merci pour l'écriture, je prends. Et par ailleurs, concernant les lieux, et les personnages, si je dois, parce que ça pourrait être une réponse d'une heure. Si, en synthèse, on pourrait dire que cette question de la séparation des églises et de l'État, plutôt que de la laïcité au départ, m'avait intéressé, dans un premier temps, en termes d'idées qui traversent le 19e siècle. Et je ne désespère pas d'écrire là-dessus prochainement, dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, autour de cette idée qui traverse vraiment tout ce siècle avec Edgar Quinet, par exemple, qui a écrit là-dessus. Je ne citerai que lui, mais en Belgique, j'avais étudié Émile de Lavelay. En Italie, on a d'autres penseurs comme Luigi Luzzatti, etc. etc. Bon. En France, depuis le début du XXe siècle, on peut dire qu'il y a un personnage qui, d'un point de vue historien, s'intéresse à cette idée-là. C'est un personnage qui s'appelle Antonin de Bidour. Historien à la Sorbonne, anticlérical, il avait été viré de l'école normale supérieure en 1868 pour républicanisme, hein, à la fin du Second Empire. personnage assez libre, qui, je crois, n'a pas laissé une grande postérité parce que, justement, il était très peu attaché à des chapelles, on pourrait dire. Et il a écrit, au lendemain de la loi de 1905, une première histoire de la séparation, très volumineuse, sur laquelle je travaille en ce moment, d'ailleurs, qui n'est pas facile à trouver, et que Jean Bobéro m'a bien aimablement prêté, d'ailleurs. Et lui, de Bidour, s'est vraiment informé, dans des sources imprimées, qu'il est le seul à avoir vu encore à, et à cette époque, et aujourd'hui, il en a vu plein qu'on ne peut plus voir aujourd'hui ou difficilement. Ça a commencé là. Et le premier cours universitaire connu, ça peut bouger, hein, c'est 1894, de Bidour ouvre un séminaire qui s'appelle, je crois que c'est la séparation des églises et de l'État. C'était à la Sorbonne en 1894.
À la Sorbonne, pas à l'école pratique.
Pas à l'école pratique.
Non, ouais.
Et en fait, à l'école pratique d'autres études, pour poursuivre sur votre question initiale,
oui.
Le PHE, qui est fondé en 1868 et dont la section des sciences religieuses est fondée en 1886, cette section a pour objectif, en gros, d'étudier les textes sacrés avec une approche d'ordre profane.
Mmh. Oui, non religieux. Mmh. Oui.
On pourrait le synthétiser comme ça. Au départ, c'est une section d'ailleurs, une faculté, pourrait-on dire, composée de beaucoup de chercheurs de culture d'origine juive, protestante, quelques catholiques. Il y a quelques athées, à la rigueur, etc. Et le temps passant, donc il s'agit vraiment d'étudier toutes les religions, hein. Ça va jusqu'à l'ésotérisme, en passant par les monothéismes, les religions anciennes, etc., de nos espaces ou d'autres. Et je dirais que le PHE, l'école pratique d'autres études, bon, c'est quand même l'institution où on a eu Lévi-Strauss, Roland Barthes, pour le
exactement.
Rappeler s'il le fallait quand
oui,
même.
Oui. Enfin, oui,
de saussure,
Marcel Mauss, et bien d'autres, plus ou moins connus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette institution, pour moi, c'est un lieu qui est une espèce de mise en pratique de la laïcisation du savoir. C'est ça que j'évoque dans le livre.
Oui.
C'est-à-dire qu'au départ, on n'y a pas étudié la laïcité. Il a fallu 1991 pour que Jean Bobéro, sur lequel je peux dire un petit mot, crée la première chaire du domaine en France. Et toujours aujourd'hui, je tiens à rappeler que c'est la seule.
C'est la seule, oui. Maintenant, le titulaire est Philippe Portier.
Alors, d'autres séminaires s'intéressent à la laïcité, bien sûr, de près ou de loin. D'autres cours dans d'autres institutions y traitent. À l'Institut catholique, j'ai un cours là-dessus, mais c'est un cours, ce n'est pas une chaire, ce n'est pas tout un enseignement.
Oui.
J'ai des collègues, bien sûr. Je veux ici citer aussi Jean-Marie Mayer, grand historien mort il y a 10 ans. Historien du catholicisme social, prof à la Sorbonne, à Créteil, qui a écrit des synthèses que tout étudiant en histoire connaît. Mayer a été fondateur aussi pour cette histoire dans les années 60, 70, 80. Et lui, il mettait l'accent, pour la loi de 1905, sur un article, qui est l'article 4 de la loi, sur les associations cultuelles. Alors, il avait souligné dans un livre de 1966 et dans d'autres travaux, disant, vous savez, il y a... Bon, il avait un point de vue, certes, un peu catholique, on va dire, mais qui n'était pas du tout... C'était une sensibilité, c'était pas un parti pris du tout. Mayer était reconnu pour une probité intellectuelle très grande, une très belle écriture, très sobre. Mais il disait, cet article 4 sur les associations culturelles maintient un lien aussi entre l'État et les religions, contrairement à ce que beaucoup disent. Ils disent qu'il y a une séparation stricte, toujours d'un air très martial. Hein,
Revenons sur Jean Bobéro un petit moment,
parce que
j'aimerais bien que vous disiez quelques mots, parce que c'est une figure centrale de votre livre, et aussi pour ce qu'elle a fait pour le champ de la laïcité en tant qu'objet d'étude.
Bien sûr. Bah, disons que Jean Bobéro, il en a fait un objet institutionnalisé, tout en gardant une grande liberté pour qu'il connaît. On sait que c'est quelqu'un qui a une grande liberté d'esprit, très attaché à la liberté intellectuelle de soi et de l'autre. Bobéro, c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 60 à travailler. Voilà. C'est un historien,
au
départ. Historien du protestantisme. Il a travaillé sur les milieux évangéliques non concordataires au XIXe siècle, donc en gros des protestants qui n'étaient pas reconnus par le régime subventionné du concordat. Bon. Et puis au fil du temps, il travaillait à l'époque avec Daniel Robert, autre spécialiste du protestantisme et du concordat, et au fil des années 70, Jean Bobéro, qui a associé une vie intellectuelle intense, mais militante aussi, militante, hein, marquée à gauche, très importante pour lui, et toujours aujourd'hui, il y a cet attachement à la prise de parole dans la société, notamment dans la presse, qui, je crois, est très importante aujourd'hui, bien entendu, comme hier. Et à la fin des années 70, il s'intéresse à un auteur anglophone, David Martin, qui a remis en question le paradigme de la sécularisation, disant il y a une sécularisation des sociétés, mais que dire des institutions. C'est pas tout à fait pareil. Et là, on commence à parler de laïcisation. Et à partir du début des années 80, dans un contexte où la France va célébrer le centenaire des lois Ferry, entre dans une époque de patrimonialisation de son savoir, c'est l'époque des lieux de mémoire de Pierre Nora, par exemple, Bobéro va s'intéresser à cet objet de laïcité, vraiment de manière très, très intensive, en partant, dans ses premières recherches, du protestantisme, hein, ce que les protestants y ont apporté, etc., et après en ouvrant, bien sûr, l'objet au féminisme, à son internationalisation, l'idée que ce n'est pas une exception française, etc., etc., avec d'autres collègues étrangers. Loin de moi l'idée d'être chauvin, c'est pas trop le genre de la maison, mais tout de même, je tiens à mentionner qu'en Belgique, Hervé Asquin, historien toujours bel et bien là, du même âge que Bobéro d'ailleurs, a créé les premiers cours à l'Université libre de Bruxelles sur l'histoire de laïcisation en 1979. Ce qui est, c'est un moment très important dans la structuration de cet objet. Et d'ailleurs, Belges et Français ont beaucoup collaboré dans les années 80-90.
Et justement, vous parliez de structuration de l'objet. Mm-hmm. Et pour témoigner aussi l'esprit, disons, libre, et pas seulement libre, de Jean Bobéro, je me limite à citer un ouvrage que vous analysez dans votre livre. On est 2016, je crois, mais vous allez me corriger. La laïcité expliquée, non, c'est pas à Monsieur Sarkozy, à ceux qui écrivent ses discours.
Oui, c'est un peu avant.
C'est un peu avant. Quelques années avant. Ah, oui. Pardon. Et donc, vous voyez déjà la laïcité expliquée à Monsieur Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours. C'est-à-dire, il s'est adressé au président de la République. C'est pas mal.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a à la fois, il a toujours écrit. Il a toujours écrit des travaux d'érudition. Dernièrement, il vient de faire paraître en 3 volumes une histoire de la séparation à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Ça fait 1500 pages, 3 fois 500 pages, ou même plus, mais on approche de 2000 sûrement. En 1990, il a écrit un livre que j'analyse en détail qui s'appelle « Vers un nouveau pacte laïque sur les enjeux de l'époque, toujours lisible aujourd'hui, celui sur l'Europe des 12 en 1994 et celui que vous mentionnez, la laïcité expliquée à M. Sarkozy, à ceux qui écrivent ses discours, sur au fond la manière dont, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il défendait Sarkozy ce qu'il appelait une laïcité positive. Bon, disons qu'il y a vraiment cette époque dans les années 2000. À partir de 2003-2004, il y a eu un rapport de François Baroin en 2003 sur la nouvelle laïcité, avec l'idée de repolitiser cet objet, et en un sens, cette politisation de l'objet a tendance à l'extraire du champ du savoir. Et pour moi, depuis une vingtaine d'années, en un sens, mon livre s'inscrit contre ça, cet objet a été extrait du champ du savoir, et le livre de Bobéro, qui est un livre mixte, comme il le dit souvent, un livre érudit et un livre militant, on va dire, et qui est adressé directement au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de se faire entendre, hein, et de ne pas rester un champ clos, fait partie de cette critique, je crois, d'une surpolitisation de l'objet.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bon, on a vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir Vincent Genin pour son livre « Histoire intellectuelle de la laïcité ». Le mot « intellectuel », on vient de le développer. Hein. Il s'agit vraiment aussi de déconstruire ce qui se dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans les discours médiatiques et par les politiciens, de déconstruire l'usage du mot « laïcité hein. ». Pour nous, philosophes, la déconstruction, c'est fondamental. Hein, parce que déconstruire les opinions, c'est déjà Platon qui le disait, voire même les faire sortir de la cité, ce serait le pied. Bon, Vincent Genin nous fait un très très beau cours, on pourrait dire, hein, sur cette histoire intellectuelle de la laïcité dont on rappelle que le bouquin est en vente et qu'il faut absolument l'acheter. Michele, ça s'approche, il est 16h50. Alors, ah oui. c'est à toi.
C'est hein. Le temps de la flânosophie.
Mais c'est le temps de la flânosophie, ah le bon. Jingle qui arrive.
Chères auditrices, chers auditeurs de Philosophie au présent, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce petit divertissement de Philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. Nous sommes déjà arrivés à la 8e Flânosophie. Désormais, comme vous le savez, l'invitation est toujours la même. Essayez de mettre de côté votre portable encore pour un instant et je vous conseille de suivre mon indication à la lettre parce que vous risquez sérieusement de ne plus jamais trouver votre portable à la fin de cette flânosophie. Aujourd'hui, on commence par un exercice d'imagination. Avant tout, fermez vos yeux. Alors on quitte Paris et on part vers le nord de la France. C'est à vous de choisir entre la Bretagne, la Normandie ou les deux si vous le souhaitez, mais pour être sartrien, au moins pour un instant, rappelez-vous que vous avez toute la liberté du monde, mais si vous ne choisissez pas, vous avez malheureusement déjà choisi. Et il y a quelque chose de surprenant et énigmatique dans cette partie septentrionale de l'Hexagone. Ce n'est ni du beurre, qui est un peu partout, ni des huîtres. Mais si vous avez pensé au Mont-Saint-Michel, vous n'êtes pas trop loin de la solution. En effet, il y a une entité qui est à la fois créatrice et destructrice, très précise dans les horaires, mais jamais complètement prévisible. L'objet flânosophique d'aujourd'hui, c'est la marée. La marée est un objet flânosophique au sens propre, parce que la marée est une matière philosophique à mouvement. Une matière ajoutant d'une certaine importance et largement sous-estimée, la philosophie aime beaucoup tout ce qui est sous-estimé, mais aussi tout ce qui est surestimé, car la philosophie a conscience que l'être humain possède des critères très fluctuants dans nos évaluations des choses. Et pour valoriser correctement l'objet sous-évalué d'aujourd'hui, voici quelques lignements de ce que j'appellerais la philosophie cachée des marées. Première partie, la logique des marées. Soyons objectifs, les marées sont des entités profondément rationnelles. Elles suivent des horaires précis, elles sont soumises à des processus ascendants et descendants, elles bougent en obéissance aux lois de la force d'attraction gravitationnelle. Peut-être elles sont aussi capables de calculer le trajet le plus rapide pour atteindre un littoral. J'ose dire alors qu'il y a tout l'espace pour concevoir une critique de la raison humide. Deuxième partie, la métaphysique de marée. Il faut aussi dire qu'au-delà de cette rationalité, au-delà du caractère physique et assez prévisible de leur mouvement, les marées proposent une véritable métaphysique du réel. En effet, elles expriment un message très clair. Au-delà de l'apparence, il y a toute une substance submergée, un monde du non-visible qui n'est moins tangible que celui que notre regard aperçoit. Ce sont le temps et l'attente qui font remonter à la surface l'apparence éphémère de la réalité des choses. J'ose dire alors qu'il y a tout l'espace pour formuler ainsi un recueil de méditation métaphysique des marées. Troisième et dernière partie de notre philosophie cachée des marées et l'éthique des marées. Est-ce que les marées ont un système de valeurs? Est-ce qu'une marée peut choisir de monter ou de descendre, de démolir ou d'épargner la côte? Et surtout, une marée peut-elle décider de ne pas être une marée? Je ne sais pas dire si les marées ont une éthique telle que nous la concevons. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que leur existence peut nous aider à réfléchir sur l'importance des influences, des conditionnements extérieurs sur nos actions. Chacun sa propre lune ou plusieurs lunes, et chaque lune a sa propre force et sa propre façon d'influencer les marées. Voici donc quelques idées pour formuler une petite philosophie des marées qui, comme le philosophe, bouge en continu et comme la philosophie, ouvre la voie vers une vision différente des choses.
Merci Michele pour cette philosophie des marées avec la notion de flux, et on est très très proche de l'idée de révolution. Hein,
ah
bon.
Oui.
Bon, alors, avons-nous, bon, là je regarde nos techniciens qui nous aident aujourd'hui, avons-nous encore le temps de poser 2-3 questions à notre invité? 3, 2, 3, oh, je vois les petits doigts se lever, super. Alors là, c'est le petit questionnaire pas trop rationnel. Voilà, faut pas réfléchir, Vincent Genin, pas du tout. Alors, c'est la première question. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle première décision aimeriez-vous prendre?
Abolir le ministère, car il n'y a pas de pouvoir là-dessus.
Ah, magnifique. Super, magnifique. Quelle est la chose la plus irrationnelle à laquelle vous avez déjà pensé?
Sauter dans un train.
Hein? Ok.
C'est magnifique. Quel est votre rêve d'enfant?
Oh, de la brume au-dessus d'un escalier.
Waouh, super. Bon, on a eu un immense plaisir. Voilà, on va tenir le temps. Il est 55. On a été absolument magnifique, comme d'habitude. Voilà, nous avons eu l'immense plaisir et peut-être nous reviendrons, nous poserons une nouvelle invitation à Vincent Genin pour poursuivre nos discussions. Alors, vous êtes venu nous voir pour une histoire intellectuelle de la laïcité de 1905 à nos jours. Voilà, il faut lire cet ouvrage.
Oui,
passionnant.
Passionnant et très merveilleusement écrite, je dois dire aussi. Et Nathalie, on donne le rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs.
Oui, le 29 juin avec Isabelle Raviolo sur le peintre Rothko.
Rothko, ce sera une magnifique émission comme aujourd'hui. Au revoir à toutes et à tous et grand merci.
Merci Vincent
Nathalie,
Genin.
Merci Vincent Genin.
À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.